large weapon down below. We're gonna go down and check it out.
All right, this is Hawk 5. I'm rolling.
Get your case of beer for that.
Et oui, bonjour à tous. Une nouvelle édition de l'émission En attendant la bombe, comme tous les mardis à 17h. Et on est mardi, c'est le 2 février. On est en direct à aujourd'hui une émission spéciale avec l'association Art et Développement. J'ai en face de moi Cyril, qui est chef de projet à Art et Développement. Salut Cyril. Vas-y, dis bonjour.
Bonjour.
Ouais, super. Alors Cyril, ça va bien ?
Oui, très bien. Alors, merci de me recevoir.
Alors, bienvenue dans les studios de Radio Galère. Alors, on va un peu parler un peu d'Art et Développement, mais avant, on va un peu parler de toi aussi. Alors, comment tu as atterri à Art et Développement et comment es-tu devenu chef de projet dans cette association, Cyril ?
Alors, très bien. Mais alors, ça fait 8 ans que je suis à Art et Développement. J'ai toujours été... Donc, Art et Développement, c'est une association qui développe des ateliers de peinture dans la rue, dans les cités, dans les quartiers, avec des artistes. Donc, pour ma part, j'ai toujours été intéressé par cette dimension culturelle et artistique. Ce n'est pas réellement en lien avec mes études, puisque j'ai fait des études de droit, j'ai une maîtrise en droit international. Et au sorti de ces études-là, en fait, j'ai eu envie de me poser. Je me suis lancé avec des amis. On a créé un collectif d'artistes graffeurs sur Marseille, donc je me suis beaucoup investi là-dessus. Et une fois cette dynamique-là lancée, je me suis un petit peu intéressé à ce qui se faisait au niveau des associations marseillaises. C'est-à-dire que j'avais envie de m'engager sur un champ social auprès des quartiers, mais le tout avec une entrée culturelle. Donc j'ai un petit peu fait le tour de tout ce qui se faisait à Marseille. Je suis tombé sur Art et Développement, donc il y a cette action-là depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis allé voir un peu ce qu'ils faisaient sur le terrain, dans les quartiers, ces ateliers de peinture avec des artistes, qu'est-ce que ça pouvait donner. Ça m'a beaucoup intéressé, j'ai fait une demande de stage là-bas, et puis au sorti de ce stage, on m'a proposé un poste d'animateur, et depuis, voilà, ça fait 8 ans que je m'investis là-bas, et que je m'engage dans la bataille d'Art et Développement, de développer ces ateliers de peinture dans de nouveaux quartiers chaque année.
D'accord. Voilà. Alors l'association, elle a 20 ans ?
Voilà, ça fait 20 ans. C'est une association marseillaise. Hein, donc on est basé au boulevard National, pas très loin de Félix Piat. Et en fait, c'est une association qui descend de la mouvance ATD Quart-Monde. Donc ATD Quart-Monde, c'est une organisation internationale qui s'investit également dans les quartiers. Et notamment, il y a un des aspects de leur action qui est des ateliers d'écriture et de lecture dans la rue. Et en fait, le fondateur de Art et Développement, Loïc Chevron-Breton, était beaucoup investi dans ATD Quart-Monde. Et il a eu l'idée à partir de cette pratique-là de transposer le dispositif sur une entrée art et peinture. C'est-à-dire, le concept, c'est ça, hein, c'est mettre en place une action qui a lieu en pied d'immeuble, donc dans la rue, au sein du quartier, mettre en place une action qui soit visible, c'est-à-dire être présent chaque semaine. Donc le principe, c'est que l'atelier donc, se tient au centre du quartier, un endroit où, je dirais, l'ensemble des habitants peuvent nous remarquer. Le principe, c'est que ça soit une fois par semaine et les conditions d'accès sont très libres. Alors ce que j'entends par très libre, c'est déjà l'atelier est gratuit et il n'y a pas de limite d'âge. Donc ce qui fait qu'on peut avoir des parents qui soient présents, des ados qui passent, mais très concrètement on est quand même plutôt sur une entrée enfance parce qu'on a des enfants qui ont entre 3 et 12 ans, c'est la grande majorité des enfants qui sont présents. Et donc atelier en libre adhésion, ça veut dire aussi que les enfants ne sont pas obligés de rester sur les 2 heures de l'atelier s'ils ne le souhaitent pas. Donc c'est une action en fait qui répond à la fois aux enfants donc qui traînent un petit peu en pied d'immeuble, qui savent pas trop quoi faire et qui vont venir de manière ponctuelle. Et l'action répond également aux enfants qui ont réellement envie de pratiquer de manière régulière et qui, eux, en général, par quartier, on fait une quarantaine d'ateliers dans l'année. Et sur cette quarantaine d'ateliers, on va dire, on va mobiliser 350 enfants ou 300 enfants différents dans l'année. Et il y en a une trentaine à peu près qui est là à tous les ateliers quasiment. Donc c'est ce public-là qui est très demandeur, je dirais. Et au niveau du public, donc ce public enfance entre 3 et 12 ans est parfois accompagné des parents, mais ce qu'on remarque dans beaucoup de quartiers, c'est que les parents sont souvent très occupés, ils ne sont pas présents. Donc voilà, on est là pour répondre, pour occuper un peu ces petits jeunes qui traînent en pied d'immeuble.
Alors vous proposez quoi comme genre d'atelier ?
Donc c'est un atelier de peinture, hein, c'est toujours la base que l'on propose. Donc le principe, en gros, il y a une équipe d'animateurs qui est présent. Certains ont le profil animateur, d'autres sont des stagiaires en école d'éducateurs spécialisés. On a des étudiants en école des beaux-arts qui viennent également pour nous donner un coup de main. Mais je dirais, il y a une personne qui a un rôle clé dans cet atelier, c'est l'artiste. Donc en fait, Art et Développement, c'est une petite structure, on est 2-3 salariés. Et tout le reste, ce sont des artistes en vacation. Et on développe un projet depuis maintenant 10 ans qui s'appelle Un artiste, un quartier. Donc l'idée, c'est faire en sorte de trouver un artiste qui soit intéressé par ce mode d'action. C'est pas évident, hein, de dire à un artiste, venez dans la rue, basez-vous sur un public qui est là cette semaine mais qui sera peut-être pas là la semaine prochaine. Donc il faut trouver des gens qui soient intéressés par ça et des artistes qui aient envie de transmettre leur savoir-faire, je dirais. Et donc c'est eux qui réellement vont rythmer l'atelier de leur empreinte. Donc ils ne sont pas forcément tous artistes peintres au sens classique, certains sont sur des médiums différents, que ce soit les installations, la photographie, la vidéo ou bien d'autres choses, mais la base ça reste l'atelier de peinture. Alors pourquoi l'atelier de peinture ? C'est parce que c'est très simple à mettre en place et je dirais, il n'y a rien de plus naturel que de prendre un pinceau et de coucher donc sur une feuille blanche quelques traits, et ce, quel que soit l'âge que l'on ait. Donc en gros, concrètement, on établit l'atelier au centre du quartier. Il y a différents postes de distribution où les enfants viennent prendre leur matériel. Selon les endroits où on intervient, selon les places du quartier, il y a plus ou moins de confort, c'est-à-dire que les enfants peuvent se mettre sur des murets, sur des bancs, s'adosser, et s'il n'y a pas ces conditions-là, on les installe sur des bâches au sol. On leur donne des feuilles canson de différentes tailles. Les plus grandes, c'est des formats raisins. Ça fait 60 cm sur 50 à peu près. Et on installe ces feuilles sur des planches en bois, des planches isorelles. On cale ça avec des pinces à linge. On leur donne des assiettes avec de la peinture dedans. Et les enfants, rapidement, comprennent quel est le fonctionnement de l'atelier. Ils savent à quel poste ils doivent aller pour reprendre du matériel. Et surtout, ce que l'on remarque, et c'est ce à quoi l'on croit beaucoup, c'est que la présence de l'artiste va leur permettre de s'éveiller sur cette dimension artistique, cette dimension poétique que les enfants peuvent facilement mettre en place dans la mesure où ils n'ont pas de barrière comme nous adultes où on va avoir du mal à se lâcher. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la créativité des enfants qui est très visible et qui est favorisé par la présence d'un artiste.
D'accord. Et vous avez des thématiques précises dans les ateliers, par
exemple? Alors, quand on débarque dans un quartier, que c'est la mise en place d'ateliers, on part souvent sur des ateliers en libre expression. C'est-à-dire que le positionnement de l'artiste en premier lieu, c'est de faire connaissance des enfants, partir sur un mode très libre, voir un peu quelles sont les attentes, essayer d'apprécier un peu quels sont les différents niveaux entre les enfants. Parce qu'en termes de création, il n'y a pas de différence de niveau, mais en termes de technique, parfois il y a besoin quand même de leur apporter des conseils techniques, de leur faire découvrir de nouvelles choses. Donc il y a un petit temps comme ça sur quelques mois de régulation. On demande aussi à l'artiste, on appelle ça un artiste un quartier, donc faut laisser le temps à l'artiste de découvrir le quartier aussi, voir un peu ce qui se fait, quelles sont les autres structures qui sont présentes. Et lui-même, l'artiste vient avec un savoir-faire qui lui est propre et avec une sensibilité. Et c'est cette sensibilité qu'on va lui demander de transmettre aux enfants. Donc ça veut dire que au bout de quelques mois, l'artiste va commencer à établir un projet pédagogique qui est discuté avec l'association, je dirais, mais il va faire le lien entre sa pratique personnelle et ce qu'il propose aux enfants. Donc l'atelier de peinture de rue, c'est la base qui va permettre de fidéliser un public du fait qu'on soit constant, régulier tout le temps. Et petit à petit, y a, avec les enfants qui sont les plus réguliers, ceux qui viennent très très souvent, il y a un projet qui va se monter. Par exemple, le jeudi soir, on est au Castellas et là-bas, on travaille, on fait le lien entre l'expression artistique, picturale, visible et l'écrit. Donc l'écrit, ça paraît peut-être difficile à mettre en place auprès des enfants, mais en fait on prend l'écrit sous une forme graphique, c'est-à-dire on fait un travail de réflexion entre le sens, entre les lettres et la représentation picturale. Donc tout ça, je dirais, ça demande aux artistes d'être capables de mobiliser des enfants de différents âges qui puissent comprendre donc quel est bien ce projet. Et surtout, ce qu'on demande aux artistes, c'est de pas, on recherche pas des artistes qui soient sur un piédestal. Ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre l'art accessible. Donc à eux de trouver, je dirais, des procédés pour faire en sorte que les enfants soient intéressés et qu'à travers les propositions qui soient faites, ils découvrent de nouvelles choses et qu'ils soient davantage créatifs. Parce qu'il y a vraiment un terreau qui est très propice à ça. Il suffit de l'encourager et je dirais, les artistes sont vraiment bien placés pour savoir un peu ce qu'il en est. D'autant plus qu'eux-mêmes sont confrontés également à la feuille blanche. À les enfants, quand on arrive dans le quartier, concrètement, c'est ça. On leur donne des feuilles blanches et à eux de raconter une histoire, à eux de se lancer et à eux de coucher sur le papier des choses qui leur sont propres, la représentation qu'ils se font de ce qui les entoure. Et donc, c'est très frais. Je veux dire, c'est vraiment d'un niveau enfantin, je dirais. Mais il y a souvent des choses très, très marquantes qui ressortent sur le papier. Sur le papier, c'est à l'artiste de mettre tout ça, d'enrober tout ça et de faire partager à chacun.
Mmh. Et il y a les formes de dessin, alors c'est la peinture, essentiellement, peinture à l'eau.
Pardon ?
C'est de la peinture à l'eau ou il y a aussi
c'est de la peinture gouache. Disons que je fais très attention à ce que les enfants ne se voient pas privés d'atelier parce qu'ils sont revenus avec des vêtements qui ne sont pas lavables par la suite. Donc non, c'est de la peinture à l'eau. On essaie de nettoyer les enfants quand ils sont sur l'atelier avant qu'ils repartent. On amène des blouses notamment pour qu'ils puissent se protéger. L'idée, c'est qu'ils en profitent au maximum. Donc on essaie de faire en sorte qu'ils ne rentrent pas remplis de peinture à la maison parce que ça pourra faire sourire les mamans une fois, mais pas deux, donc on essaie d'être délicat là-dessus.
Alors comme ça, vous positionnez dans un quartier, dans un point stratégique, alors un mercredi j'imagine.
Voilà, alors en fait on intervient sur les temps extrascolaires, donc ça nous laisse les mercredis, les samedis et le soir après l'école. Donc concrètement il y a des ateliers le mardi soir, le mercredi matin, le mercredi après-midi sur plusieurs lieux, un atelier le jeudi soir, un atelier le vendredi soir et un atelier le samedi. Voilà, donc concrètement, les équipes qui font l'atelier, c'est à peu près les mêmes, excepté l'artiste qui lui est rattaché à un seul quartier. D'accord. Donc par exemple, le mardi, là on était, pendant des années, on a beaucoup travaillé sur les grands ensembles urbains de Marseille, donc notamment la Castellane, la Bricarde, Fonds Vert, la Solidarité. Donc on a mené une action pendant 15 ans à peu près là-bas. Et là, jusqu'à très récemment, on était sur le quartier des Crottes le mardi soir. Donc là, on se calait sur la place du village où il y a les enfants qui sont là, qui sont présents à la sortie de l'école, qui nous voyons passant et qui s'arrêtent pour faire la peinture. Le mercredi matin, on a un atelier sur Maison Blanche dans le 14e. Le mercredi après-midi, on développe un atelier sur le quartier du Mail. Donc c'est proche de la Busserine et du théâtre du Merlan. On a un atelier sur Herbel. Donc là, c'est pas les quartiers nord, c'est dans les quartiers est. On a un atelier sur Château Saint-Loup le mercredi après-midi également. Le jeudi soir, nous sommes au Castellas. Le jeudi après-midi, on fait un atelier pour les femmes à Herbel. Parce que là, je fais une pause de seconde. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que les enfants produisent énormément de peinture. Au début, ils ramènent tout à la maison. Parce que ils ont le souci de garder l'œuvre qu'ils ont réalisée, mais rapidement les parents commencent à mettre le holà en disant les peintures on peut pas les conserver, donc nous ce qu'on propose aux enfants c'est de conserver leurs peintures. Donc concrètement les enfants plus réguliers ils ont tous leur dossier à l'association avec toutes les peintures qu'ils réalisent chaque semaine, et ceux qui sont moins réguliers on les conserve aussi des fois qu'ils deviennent réguliers par la suite. Donc ce qui fait qu'on dispose d'un patrimoine de ces ateliers fait par les enfants, et ce patrimoine on le met en valeur une fois dans l'année à l'occasion d'une fête de quartier, à l'occasion d'une exposition qu'on va réaliser dans le quartier. Et là, l'enjeu, c'est montrer un peu ce qui a été produit et puis faire en sorte que, nous, on travaille beaucoup là-dessus, que les gens portent un regard intéressé sur la production des enfants, et on n'est pas dans l'idée de gagatiser en disant c'est beau, c'est joli, c'est des petits, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que de grands artistes ont cherché pendant des années à retrouver l'expression qui sortait des enfants, c'est-à-dire cette espèce de créativité. Donc nous, on considère que c'est absolument pas un art mineur, que ça a de l'intérêt, et on essaie de valoriser les enfants et les familles à travers ça. Et donc pour en revenir à Herbel, Herbel c'est un projet qui a démarré il y a 3 ans, donc on est devant l'école chaque mercredi après-midi, on a une quarantaine d'enfants à peu près. Donc à l'occasion de la première exposition, les mamans se sont manifestées en disant « Attendez, ce que vous faites avec nos enfants c'est super intéressant, on aimerait en profiter nous aussi. » D'accord. Par contre, elles nous ont fait comprendre que créer dans la rue, aux yeux de tous comme ça, c'était quelque chose qui était facile pour les enfants, mais qu'elles n'étaient pas prêtes à aller jusque-là. Donc en fait, on a mis en place un atelier de peinture pour les mamans, mais qui se déroule en intérieur. Donc là, c'est le centre social du quartier qui nous prête une salle, et chaque jeudi après-midi, on a des mamans qui sont présentes. Alors, beaucoup moins nombreuses, bien entendu, mais il y en a quelques-unes qui s'investissent progressivement. Voilà.
D'accord.
Et donc le vendredi soir, pour poursuivre, nous sommes sur le quartier de Saint-Thys, donc ça c'est dans les quartiers Est également. Et après, il y a toutes les actions qu'on développe en dehors de Marseille aussi.
Au niveau national.
Voilà, donc en fait, donc c'est une association marseillaise, hein, je veux dire, au ça départ. Fait 20 ans qu'on est ici, au départ et toujours, hein, je toujours. Dirais, parce que la plupart des gens du bureau sont des personnes qui vivent sur Marseille, tout le monde vit sur Marseille quasiment pour les ateliers marseillais. Mais pendant 10 ans, on a fait un peu ça tout seul, c'est-à-dire qu'on débarquait dans le quartier avec nos bassines, nos pinceaux, la peinture, et on se lançait comme ça. Petit à petit, il y a eu des connexions qui se sont faites avec les écoles, des connexions qui se sont faites également avec les centres sociaux, les équipements qui étaient en place localement, les associations de locataires et compagnie. Mais on faisait ça un petit peu tout seul, je dirais.
Ah justement, c'était ma question, oui. Peut-être que je peux la poser juste avant. C'était comment vous avez fait pour vous implanter dans les quartiers comme ça ? Est-ce que vous appuyez sur les associations qui sont déjà en place ?
Ou alors, au début, je disais, on faisait connaissance, mais il n'y avait pas, on ne constituait pas une équipe.
Au début, vous veniez, vous installiez.
Au début, on débarquait. En fait, c'est mon actuel président qui a été directeur pendant 20 ans, Loïc Chauvin-Breton, qui a lancé le mouvement. C'est un principe très, très basique. C'est on débarque dans le quartier, on s'installe dans la rue et puis on voit la réaction des gens, on l'a tout de suite. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans l'association. Je suis toujours surpris comme au bout de 2-3 ateliers, on a l'impression que c'est très, très naturel. C'est-à-dire que les gens identifient que l'atelier est là et qu'il va être là chaque semaine, très rapidement, et puis ils se l'approprient. C'est-à-dire c'est l'intérêt de l'espace public aussi. C'est-à-dire qu'en étant dans l'espace public, c'est un terrain qui est neutre, qui appartient à tout le monde. Et chacun est libre de venir ou pas. Donc je dirais, très rapidement, on s'installe dans le quartier. Alors on fait un petit affichage ou parfois même pas d'affichage, on s'installe tel quel. Et de par cet atelier visible qui commence à rassembler du monde, je veux dire, y a tout un tas de curieux qui vient voir ce que c'est que ça. Les enfants commencent à peindre, les parents s'installent sur les bancs un petit peu plus loin et puis commencent à tchatcher entre eux. Et je dirais, dans cet atelier, il y a quelque chose qui est l'ordre... le lien social, c'est un mot très très bateau, mais il y a quelque chose qui est l'ordre de ça. C'est-à-dire qu'on fixe un point de vie dans le quartier où les gens vont venir, ça va rassembler du monde, et il y a ceux qui vont se mettre dans la peinture et puis il y a ceux qui vont juste être là pour échanger. Et donc je dirais, on n'a pas besoin au démarrage, du moins on n'avait pas besoin de plus que ça. Par contre, ce qui est évident, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en place des actions qui soient pérennes. Donc pour mettre en place des actions pérennes, pour financer, alors il y a beaucoup de bénévolat dans notre asso, beaucoup de stagiaires qui viennent, c'est des temps de formation des pour eux, notamment des éduques. Au niveau des artistes aussi, ils sont pas bénévoles, les artistes qu'on fait intervenir. Donc ils sont rattachés à la maison des artistes, donc ils sont en vacations et compagnie. Et donc je dirais, pour mettre en place des projets pérennes, c'est vrai qu'il faut être en capacité d'attirer des financeurs également. Donc on s'appuie pas mal sur les financements publics, donc notamment le dispositif CUCS, le contrat urbain de cohésion sociale. En fait, c'est des partenaires institutionnels qui vont déterminer que dans telle et telle ville, il y a tel ou tel quartier qui ont besoin d'un coup de pouce, et donc ils vont allouer des financements pour des actions culturelles, pour des actions sociales. Donc il y a besoin qu'il y ait ce soutien, je dirais, du CUCS pour qu'on démarre dans un quartier maintenant. Parce que bon, ce qu'on faisait au début, il y a 20 ans, c'était très frais, mais là, on est quand même beaucoup plus structuré qu'auparavant, et on est en capacité de voir ce qui fait qu'on va démarrer un atelier qui va tenir par la suite, et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Donc c'est vrai qu'il nous faut des financements publics. On fonctionne avec les logeurs également, donc les logeurs, c'est les entreprises d'HLM. Donc concrètement, on a des partenariats avec la Logirem, avec HMP, avec la Faucéenne d'habitation, le groupe Unicil, et eux notamment, donc les logeurs, ce sont eux, ils reçoivent les loyers et compagnie, mais ils ont notamment des financements propres et qu'ils sont intéressés à mettre sur des actions qui contribuent au cadre de vie dans le quartier. Donc nous, c'est vrai qu'on a des partenariats depuis plus de 10 ans avec certaines entreprises avec certains logeurs. Et c'est parfois eux qui nous disent, bon écoutez, on serait intéressé, votre type d'action nous intéresse, on aimerait que vous le développiez à tel endroit. C'est-à-dire que nous concrètement, Arrêt Développement, on est en capacité de répondre aux différentes attentes des partenaires, qu'ils soient privés, publics. Donc parfois c'est une mairie qui vient nous chercher en nous disant, bon, on a entendu parler de cette action que vous faites sur Marseille, qui manifestement, au-delà de l'aspect développement de l'enfant, pratique artistique, rencontre des artistes, fait que dans le quartier il y a quelque chose qui change, et donc il y a des mairies qui viennent nous chercher, parfois des logeurs. Et juste pour vous dresser le tableau financier, au-delà des financements publics et des financements des logeurs, nous le nerf de la guerre maintenant, et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans, c'est d'arriver à engager du mécénat privé. Donc du mécénat privé, c'est les fondations d'entreprises qui, elles aussi, donc en fait, c'est des entreprises qui s'engagent sur des causes qui leur paraissent utiles. Et le grand nerf de la guerre maintenant pour Art et Développement, c'est ça, parce que les financements publics ne sont pas suffisants, et surtout dans notre volonté de développer ces projets dans différents quartiers. Donc je terminerai juste sur une chose. En fait, voilà, au début, on a fait ça tout seul, on a commencé à intéresser des gens à notre action, qui ont commencé à nous financer. Et il y a 10 ans, il y a eu un tournant qui est assez marquant, c'est la Fondation Abbé Pierre nous a soutenus pour notre implantation dans différents quartiers, et ils nous ont demandé est-ce que ça vous est possible de sortir de Marseille et d'exporter ce concept, ce savoir-faire d'atelier de peinture dans la rue, ce concept d'un artiste d'un quartier dans d'autres villes. Donc Art et Développement a réfléchi, nous on était une petite structure, bon, on se doutait qu'on n'allait pas devenir IBM, mais on n'avait pas non plus envie de grossir de manière trop grossir. Donc ce qu'on a proposé, c'est de s'appuyer sur des ressources locales, c'est-à-dire OK pour aller dans d'autres villes, mais on va trouver des gens localement qu'on va former. Au début, c'était une période de 3 ans, maintenant ça dure pendant 2 ans. On va les former, on va travailler avec les équipes qui sont sur place pour trouver des financements, lancer l'action, faire en sorte que ça plaise aux habitants. Et on va les accompagner pendant 2 ans, mais au bout de ces 2 ans, vu que c'est quand même assez loin, Art et Développement se retire. Donc on a quand même des actions qui sont développées dans le Var, à Fréjus, à Saint-Maximin, à Brignoles, on a des ateliers sur Aix-en-Provence, sur Aubagne, des ateliers jusqu'à Chambéry et jusqu'à Metz. On a des projets sur Paris également. Donc l'idée, c'est on accompagne ces équipes, donc en général un centre social, on trouve un artiste localement, on met en place le projet, au bout de 2 ans, on se retire, et tous ces ateliers art et développement, enfin de la mouvance art et développement, prennent leur autonomie et ils constituent un réseau. Actuellement, on a 22 ateliers en réseau en France.
En France, voilà. D'accord, ok. Eh bien, Cyril, il parle bien.
Ah, pas besoin de le reprendre.
Non, tu parles beaucoup, mais c'est bien. Je voulais reprendre aussi là, par rapport au mécénat.
Oui.
En fait, vous êtes vainqueur, là, c'est l'actualité récente, puisque vous êtes juste vainqueur du trophée des associations.
Oui.
Alors, avec la fondation EDF.
Oui, tout à fait.
Vous êtes, en fait, il y a 3 prix qui ont été décernés. Et donc, vous êtes dans le prix art.
Alors en fait donc c'est chaque année on dépose des dossiers auprès des différents mécènes que l'on peut connaître. Donc il y a tout un tas de mécènes qui nous soutiennent déjà, mais chaque année on va en démarcher de nouveaux et on essaie de voir si notre projet peut rentrer dans leurs critères. Et là notamment la fondation EDF qui s'appelle Diversitaire soutient chaque année tout un tas d'associations et a lancé un appel à projet. L'appel à projet, il a dû être fait au mois de novembre. Que je dise pas de bêtises, ouais.
2009
Oui, voilà, octobre ou novembre 2009, appel à projet. Ouais. Donc chaque asso essaie de répondre à ces appels à projet. Il y avait différentes thématiques, l'une sur la nature, l'autre sur la solidarité.
En fait, c'était vous dans les domaines de la culture.
Voilà, et nous sommes placés sur le domaine de la culture et où on a envoyé notre dossier à un artiste d'un quartier en disant bon, voilà ce qu'on sait faire, voilà ce qui nous paraît intéressant, financez-nous. Et donc au final, sur 2500 asso qui ont envoyé des dossiers, il y en a 170 qui ont été retenus pour
741,
passer. De... Comment
741. Bon, combien importe.
Ah oui, 740, t'as raison.
Ouais.
Attends pour moi.
Ah ouais,
donc,
j'ai mes chiffres.
741, bon, ouais. tu es très précis. Ouais. Je te félicite. Donc 741 dossiers qui ont été examinés par un jury et il y en a 30 qui ont été élus pour recevoir un prix, dont nous. Mais le mystère, c'est que, en gros, on sait qu'il y a, au niveau culture notamment, il y aura une association qui aura un prix de 20 000 euros, il y en a 2 qui auront un prix de 15 000 euros, 3 un prix de 10 000 et 4 un prix de 5 000. Donc le pire qui puisse nous arriver, c'est déjà un soutien de 5 000 euros. Et le mieux, c'est d'être élu comme l'asso culture. Et là, ce serait de l'ordre de 20 000 euros.
D'accord.
Donc concrètement, moi, je monte jeudi à Paris, à la fondation EDF, pour voir un peu ce qui nous est alloué.
En fait, précisément, elle vise à récompenser les associations locales qui agissent en faveur des jeunes dans les domaines de la culture, de la nature et de la solidarité.
Ouais.
En fait, vous pouvez rejoindre le domaine de la solidarité aussi.
Oui, aussi. Mais je pense que ce qui est le plus marquant au niveau des fondations, ça reste l'entrée culture. Mais c'est vrai que c'est pas juste faire peindre les... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas juste faire peindre les enfants, quoi. Il y a quelque chose qui joue dans le quartier qui est de l'ordre de tisser des liens un petit peu entre les habitants. Et ce qu'on entend par solidarité, c'est vrai que si on intervient dans des quartiers où il y a des réalités sociales qui sont réellement marquées, on va pas intervenir à Perrier, en tout cas non.
Les interventions, elles restent précisément dans les quartiers qui sont un peu défavorisés.
Oui, c'est
socialement,
ça. C'est très clairement le principe d'action. Quoi. Après, j'irais, c'est les partenaires avec qui on bosse qui attirent notre attention sur tel ou tel quartier. Mais je veux dire, on ne se trompe pas. Hein, voilà, c'est des quartiers qui ont beaucoup de richesses, déjà beaucoup de solidarité. On rencontre des familles qui sont vraiment géniales. Mais c'est vrai que ça reste des quartiers qui sont un petit peu isolés en termes d'équipement parfois. Et concrètement, ce qu'on remarque aussi, c'est que dans chacun de ces quartiers, même quand il y a des équipements sociaux, il y a des familles qui restent au pas de la porte. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais, même si c'est des prix qui sont intéressants pour faire des sorties ou autres, les centres sociaux, ils font vraiment ils font un travail génial dans les quartiers. Mais simplement, il y a des familles qui restent à l'écart de ça. Et proposer des actions gratuites dans l'espace public où il n'y a pas un seuil, il n'y a pas une porte à franchir, on répond à ces besoins-là.
Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas cette timidité qu'on peut avoir justement quand on doit franchir. Enfin, qu'on doit aller dans une institution, donner sa carte d'identité, par exemple.
Voilà, tout à fait. Voilà. Ouais, ouais.
C'est tout à fait libre. Ouais. Et Cyril, on va se passer un peu de musique, puis on revient juste après. De toute façon, il est 5h30, on a encore une vingtaine de minutes à combler. Alors voilà, alors, c'est l'émission En attendant la bombe. Alors je te propose d'écouter Poumtchak, le prochain album qui va sortir en hommage à Billy Holiday. En ce moment, ils sont en tournée. La semaine dernière, ils étaient à Marseille et à Aix. Alors, on va s'écouter I'll Never Fail You. C'est Poumtchak en direct de l'émission En attendant la bombe.
Playing.
De retour dans l'émission En attendant la bombe. Tu m'entends bien là, Cyril?
C'est très bien, c'est parfait.
Ah, nickel, parce que tout à l'heure on a des petits problèmes de son, mais on va pouvoir continuer. Alors, on est toujours dans l'émission En attendant la bombe. On est toujours avec l'association Art et Développement. Et je suis toujours avec Cyril, qui est chef de projet dans cette association. Alors, Cyril, on a pas mal parlé des quartiers, les ateliers que vous proposiez. Et c'est des ateliers régulièrement, vous les proposez toutes les semaines à des horaires fixes. Par exemple, tous les mercredis après-midi. Alors, est-ce qu'on voit toujours les publics? Est-ce que vous arrivez à le fidéliser malgré la liberté que peuvent avoir les gens de venir ou de ne pas venir
dans vos
ateliers?
Ouais, en fait, il y a des enfants qui vont... Excuse-moi, j'ai un peu trop d'écho.
Ouais,
On a des enfants qui vont venir de manière tout à fait ponctuelle et ça ne nous dérange pas. Mais par contre, on a des enfants qui vont... Je disais, on fait une quarantaine d'ateliers dans l'année qui vont être présents à 30 ateliers sur 40. Donc, ce qui est assez énorme quand même en termes d'investissement, enfin en termes d'implication, je dirais. Et ce qui nous intéresse, voilà, c'est à la fois être disponible pour ceux qui vont juste consommer la peinture de manière ponctuelle trois fois dans l'année. Mais on est intéressé à aller plus loin avec les enfants qui sont réguliers. Donc, aller plus loin, ce que j'entends par là, c'est-à-dire que c'est que le fait qu'un artiste soit présent, ce sont ces enfants-là qui vont profiter le plus. Et donc, notamment, l'artiste, lui, petit à petit, va venir avec des techniques... ce qu'on organise notamment, on demande aux artistes d'exposer leur travail, leur propre travail sur l'atelier ou bien dans des locaux du quartier. Donc à Herbel, notre artiste Alix Page, à l'espace lecture du quartier, elle a une série de peintures qu'elle renouvelle continuellement. Donc on essaie de faire le lien, je dirais, entre le milieu culturel et ces enfants-là, ceux qui sont réguliers, qui sont réellement intéressés par la peinture et qui sont dans une démarche de création semaine après semaine. Donc on demande aux artistes de venir avec leurs œuvres, de les montrer. Ce qu'on organise aussi, donc je disais tout à l'heure, on fait des expositions sur place du travail des enfants. Donc il n'est pas interdit qu'à cette exposition-là, il y ait également des œuvres de l'artiste qui est sur l'atelier. Puis ce qui est assez rigolo, c'est de faire un parallèle entre ce que produit l'artiste et ce que produisent les enfants, puisqu'il y a un échange qui se crée. Les artistes, ils sont complètement fascinés par la légèreté, par l'intensité de ce que les enfants mettent dans leurs feuilles, la fraîcheur que ça a, la façon dont ils en parlent, enfin toute la poésie qui se dégage de tout ça. Et les enfants, eux, sont très intéressés par l'artiste. artiste. C'est-à-dire, ce qui revient souvent dans les quartiers, c'est « Ah, tu es un artiste, tu es Picasso, tu gagnes des millions. » Bon, voilà, y a un peu un décalage qu'il faut reprendre avec les enfants. Et donc, ils sont assez intéressés à voir un peu comment une personne peut vivre de son art, comment est-ce qu'une personne... et puis surtout, quelle est la sensibilité, quel type d'œuvre est-ce qu'elle produit. Donc, il y a des ouvertures à ce niveau-là. Et ce qu'on fait avec les enfants les plus réguliers également, et avec l'aide des centres sociaux avec qui l'on collabore, c'est d'organiser des sorties au musée. Donc ces sorties au musée, c'est très difficile à en mettre en place. On ne peut pas le faire dans les premiers mois de démarrage de l'atelier, mais vu qu'on met en place l'atelier sur 5 ans, je veux dire rapidement, on arrive à connaître les familles. Mais ça demande à ce que les familles aient confiance, de laisser leur enfant à une équipe qui voie comme ça dans la rue de manière ponctuelle, enfin une fois par semaine. Et concrètement, l'enjeu qu'il y a derrière tout ça, c'est de montrer que les musées, c'est des lieux de savoir, c'est des lieux de culture, c'est des lieux où la culture se transmet. Et si on envoie des artistes dans les quartiers, c'est parce qu'on sait bien que une grande partie des habitants des quartiers, eux, ne vont pas aller au musée ou ne vont pas aller à la rencontre des artistes. Donc voilà, cette démarche d'aller à la rencontre des gens, c'est pas pour rien. Et on sent qu'arrivé un moment quand les enfants peignent, il y a besoin de nourrir ce qu'ils produisent. Et nourrir ce qu'ils produisent, c'est notamment leur montrer des œuvres de collection. Donc on va pas et puis les amener au musée de manière naturelle, j'irais. Donc eux, ils sont très contents de sortir du quartier parce que souvent, on a affaire à des minots qui restent tout le temps dans leur bloc, au pied de chez eux, qui ont l'école juste à côté du quartier. Et qui... Je ne veux pas noircir le tableau, mais j'ai beaucoup de familles qui vraiment ne bougent pas trop du quartier. Non. Et c'est réellement... il se passe plein de bonnes choses dans le quartier, mais voilà, il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. Donc le fait qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent sur le quartier, c'est une bonne chose. Et le fait que nous aussi, on leur permette de faire la sortie. Eux, quand ils disent on va au musée, ils disent on va à Marseille. Donc ça montre bien que ils se sentent à l'écart de Marseille. Exactement. Quoi. Ouais. Voilà, donc on les amène à Marseille, au musée, et surtout, voilà, on va pas faire un musée comme ça au hasard. Souvent, on les amène au musée Cantuni pour voir des œuvres de peinture. Quand on a un de nos artistes qui travaille sur un atelier, qui expose dans une galerie, on les amène voir l'exposition de l'artiste en question. On les amène souvent à la Vieille Charité aussi, parce que c'est un musée qui est magnifique. Et je dirais, voilà, on fait dans les ateliers qui précèdent la visite au musée, on va amorcer un travail qui va être en rapport avec la visite. Ce qui fait que concrètement, les enfants, quand ils viennent découvrir la visite, ils ont été un petit peu initiés à la chose. Et on leur donne notamment des petits carnets sur lesquels ils vont faire des croquis, prendre des notes de ce qui les a intéressés. Et ce qu'on voit, c'est qu'au-delà du simple fait de sortir du quartier et que c'est la sortie de la journée, il y a un intérêt des enfants pour les choses qu'ils ont vues. Et ça se ressent dans les ateliers qui suivent. Et concrètement, voilà, notre public régulier, on sait qu'on va organiser, je sais pas, on n'en fait pas beaucoup, on va faire 4 dans l'année, mais c'est déjà énorme. Donc le centre social nous aide, on affrète un bus, on propose aux parents de venir s'ils le souhaitent, et on se débrouille d'avoir une équipe d'encadrants pour que les enfants puissent en profiter.
Est-ce que tu crois que ça crée des talents au niveau des jeunes?
Alors,
est-ce qu'il y en a qui suivent après une filière artistique?
Alors, nous, on a un recul sur 20 ans, quasiment maintenant. Donc, en fait, des enfants qui avaient une patte artistique et qui l'ont développé. Enfin, l'intérêt des ateliers, c'est de développer sa patte artistique et s'exprimer. Donc, sur l'aspect expression, je dirais, tout le monde en bénéficie, il n'y a aucun souci. Les enfants qui viennent plus régulièrement, c'est évident qu'eux, ils vont franchir des paliers en termes de technique, en termes de rendu sur leur peinture. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'ils progressent. Donc, le pari de l'association, c'est pas forcément d'en faire des artistes, mais c'est qu'ils développent une sensibilité artistique, un certain regard sur les choses, et qu'ils soient en mesure d'avoir des billes et qu'ils aient rencontré des gens qui leur permettent d'apprécier un petit peu ce qui les entoure. Donc concrètement, des enfants qui sont devenus artistes à ce stade, moi ça fait 8 ans que je suis là, j'en connais pas, mais par contre les échos que j'ai des anciens, c'est que voilà, cette sensibilité qu'ils ont, cette pratique artistique, le fait d'avoir fréquenté des artistes, ils le gardent à jamais, quoi. C'est pas comme quelqu'un qui a jamais été au contact d'artistes et qui va se dire ah ouais, les artistes, ok, c'est farfelu, c'est des gens qui parlent de trucs qui ne concernent pas la vie courante. Enfin voilà, cette sensibilité là est là, et notamment ce qui arrive souvent à mon président Loïc, donc qui faisait les ateliers notamment il y a 20 ans à la Castellane et la Bricarde, c'est de se faire c'est de se faire appeler dans la rue de l'autre côté de la rue, où il voit des grands gaillards d'une vingtaine d'années qui sont là, oh Loïc, comment tu vas, machin. Et donc des enfants qu'il n'a pas revus depuis 7 7 ans, je dirais, et qui, eux, ne l'ont pas oublié. Donc, je pense que ce qui leur reste, notamment, bah, il y a une forme de reconnaissance.
Il leur reste une sensibilité artistique.
Ah oui, ça, très clairement. Ils ont une sensibilité artistique, très clairement. Après, est-ce que professionnellement, ils sont lancés là-dedans ou autre ? Non. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont profité de la présence d'artistes, des ateliers, et ils ont franchi un cap. Et ça, je veux dire, c'est... toute personne qui crée, je veux dire, le fait de coucher des émotions sur le papier, de coucher sa vision des choses, je veux dire, c'est quelque chose qui est très très sain, qui aide à se développer. Et donc, bien entendu que c'est pas Art et Développement qui a développé les enfants des quartiers, mais on estime y avoir apporté une petite pierre à l'édifice quand même.
Et tout à l'heure, là, tu parlais des espaces lecture. C'est les espaces lecture d'ACLM.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Marcher en collaboration avec eux, ouais. Parce que eux, c'est un peu leur démarche aussi.
Exactement. Bah, eux, concrètement, c'est pareil. Enfin, ils sont dans des locaux. Hein. La seule différence, c'est qu'ils sont dans des locaux et que nous, on est dans l'espace public. Mais ils sont sur cette entrée-là et c'est peut-être un peu plus axé sur l'écriture, sur la lecture, sur la constitution de livres. Mais c'est vraiment des partenaires qu'on aime beaucoup parce qu'ils sont sur le même volet, quoi. C'est-à-dire que la culture au service des quartiers, quoi. C'est-à-dire cet accès à la culture, quel que soit le champ, j'irais, ça n'est que profitable pour les habitants.
Et les artistes là qui proposent ces ateliers, quel est leur retour par rapport à ces ateliers qu'ils proposent ?
Alors eux, ils prennent beaucoup de plaisir à être avec les enfants et je dirais, voilà, comme je disais tout à l'heure, enfin comme je disais, les enfants se nourrissent de l'artiste, mais l'artiste se nourrit des enfants aussi. C'est-à-dire que dans la spontanéité de ce qui est produit sur le papier, dans la fraîcheur, dans l'envie. Les artistes qu'on recherche, on cherche pas des gens qui soient juste des animateurs d'art plastique. On cherche des gens qui sont dans une démarche de création. Et s'ils sont réellement dans une démarche de création, je dirais, voilà, il faut que les ateliers les nourrissent aussi, quoi. Mm-hmm. Donc, y a des allers-retours qui se font et ça leur donne des idées de thématiques, ça leur donne des envies d'aller plus loin. Et notamment, ce qu'on essaie de développer maintenant, on a notamment le soutien des logeurs ou des collectivités publiques, tout ça, c'est on essaie dans les quartiers où on est implanté depuis quelques années de réaliser des œuvres collectives. Donc les œuvres collectives, c'est-à-dire que c'est l'artiste de l'atelier qui est à la houlette, mais il va produire une œuvre qui est très personnelle, mais avec l'aide des enfants réguliers ou des habitants qui veulent s'y associer. Et ça permet de laisser des traces artistiques dans le quartier. Donc c'est pas faisable dans tous les quartiers, mais ceux où on sent qu'il y a une brèche là-dessus, on le fait, parce que ça permet de bien mobiliser les habitants. Et puis, ça, je dirais, le constat qu'on peut faire, c'est que nos quartiers sont quand même assez gris, assez bétonnés. Ça apporte de la fraîcheur et de la gaieté. Hein.
D'accord. Alors, bah oui.
Voilà.
C'est un peu le but aussi.
Oui, tout à fait.
Et ça permet aussi aux jeunes une certaine fierté de montrer les œuvres. Vous avez vu, ça, c'est moi qui l'ai fait.
Tout à fait. Il y a quelque chose à leur
entourage, à leurs voisines.
Ouais. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de on a réalisé quelque chose. Mmh, on a fait quelque chose. Et puis, réaliser quelque chose déjà en soi, ça apporte beaucoup. Mais être prêt à le montrer, ça révèle que quand même, on en est fier.
On en est fier.
Voilà. Donc, c'est toute une démarche aussi. C'est pas évident. Parfois, moi, j'ai des enfants qui... En fait, les peintures qui sont réalisées sur l'atelier, on accroche tout ça sur un fil. C'est-à-dire, je tends un fil entre les arbres et j'accroche les peintures avec des pinces à linge.
À chaque fin d'atelier.
Pendant l'atelier.
Pendant l'atelier.
En fait, j'ai des enfants qui vont faire... Il y a un enfant qui va passer 1h30 sur sa peinture et d'autres qui vont faire 3-4 peintures. Donc, c'est très variable. Mais à la fin de l'atelier, j'ai 80-100 peintures qui ont été produites. Donc tout ça, je l'accroche sur un fil et ça constitue une exposition en direct, quoi. Donc les gens du quartier qui passent, qui soient à 30 mètres, 10 mètres, 2 mètres, ils voient bien qu'il se passe quelque chose et qu'il y a de la production qui a été faite. Donc c'est vrai que je demande aux enfants, quand je le fais, est-ce qu'ils sont fiers de leur peinture, est-ce qu'ils veulent que je l'accroche. Je veux dire, le processus créatif, c'est raté aussi. Ça peut arriver de rater des œuvres. Donc je veux dire, qu'on soit un enfant ou qu'on soit un grand artiste, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas en rester là et de rebondir sur une nouvelle peinture. Donc voilà, quand les enfants sont fiers de leurs œuvres, on les montre et on n'hésite pas.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, Cyril, je pense qu'on a fait le tour de l'association Art et Développement.
Très bien. Bah, alors, je ferai juste un petit appel.
Ouais, vas-y. Justement, je voulais que tu lances un petit appel aussi.
Ouais, voilà. Ouais. Donc, concrètement, donc, des ateliers à Marseille, on en a pas mal. Cette année, là, on travaille pour développer 5 nouveaux projets en France. Il y en a 2 qui vont avoir lieu à Marseille. On vise le quartier de Benza dans le 10e et notamment le quartier des Lilas près de Saint-Jérôme. Et concrètement, donc, moi, je dispose d'artistes. J'ai des éducateurs qui sont en stage, mais et on est toujours, encore et toujours, en recherche de bénévoles. Donc tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est si vous êtes il n'y a pas besoin d'avoir, il y a des artistes qui sont là sous l'atelier, donc il n'y a pas besoin d'avoir une pratique artistique poussée ou même pas de pratique artistique du tout. Ce qu'on recherche, en fait, ce sont des bénévoles, des personnes qui sont prêtes à s'investir une fois par semaine, à venir sur l'atelier et qui soient simplement intéressées par les enfants et qui soient assez ouvertes sur la peinture, je dirais. Donc nous, après, on peut les former, on peut les intégrer à nos équipes et voilà, c'est beaucoup de bonheur. Les ateliers, concrètement, c'est des sourires d'enfants qui nous accueillent chaque semaine quand on arrive sur l'atelier et c'est une explosion de couleurs. Donc voilà, donc si ce genre de choses vous intéresse...